Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Vous vous rappelez avant les fêtes qu'on a reçu Opération Père Noël qui donne des cadeaux dans les centres pour protection de la jeunesse, des PJ et autres. Il y a plein de monde qui ont besoin de cadeaux, de soutien, de réconfort. La personne qu'on reçoit en fait aujourd'hui, il est vice-président de la Fondation Les Petits Lutins, qui de son côté vise à apporter du réconfort, du soutien et des cadeaux aux personnes affectées par le VIH-SIDA qui vivent des situations d'isolement ou de précarité. Et c'est le plaisir de recevoir Antoine Gélina. Bonjour Antoine. Oui.
Bonjour. Vice-président, là, c'est un gros titre. On est une toute petite fondation de rien. C'est parce qu'on est obligé d'avoir des titres dans CA, parce que je me prends pas pour un vice-président.
J'avais membre fondateur aussi.
aussi.
Mais je comprends aussi, on racontait d'entrée de jeu dans l'introduction que ça s'est quand même fait lentement cette progression parce que Sylvain, votre conjoint, au début, était quand même... vous n'en parliez pas tant que ça dans votre entourage de ce que vous faisiez.
Non. Bien, c'est ça. En fait, lui, Sylvain, il a commencé à l'automne 1991 à apporter des cadeaux. Mm-hmm. C'est son frère est décédé du sida dans la période de temps où est-ce que peu de gens survivaient malheureusement à cette terrible maladie-là. Dans sa malchance, Alain, le frère de Sylvain, est mort dans la maison familiale, entouré de sa famille. Puis ça, ce qui est à cette époque-là, encore une fois, pour avoir fait du bénévolat dans d'autres organismes dans ce temps-là, n'était pas toujours le cas. Il y avait beaucoup plus de cas d'abandon de famille face au sida et de rejet. Et une fois que Sylvain s'est senti assez démuni, une fois que son frère est mort, et le Noël d'après, il cherchait quoi faire, mais occuper la vie est folle, il travaillait dans les fonds mutuels, grosse vie. Alors, il s'est dit, je vais apporter quelques cadeaux de Noël à une résidence qui hébergeait à ce moment-là les gens là, qui étaient en fin de vie qui vivaient avec le VIH-SIDA. Donc, il a commencé avec une résidence qui était la résidence du parc en face du parc La Fontaine, qui existe encore aujourd'hui. Quand il est arrivé avec sa boîte de petits cadeaux, vraiment, c'est des petites pensées, on lui a demandé, mais ça vient de qui? Puis là, il ne voulait pas donner son nom. Il voulait que c'est garder une partie magique. Puis il a dit, ben, ça vient des petits lutins. Le nom est resté. Il a commencé à en donner à de plus en plus d'endroits. Et quand on a commencé à se fréquenter en 98, il m'en a parlé de ce qu'il faisait. Et il en avait parlé à personne. Il ne disait pas à sa famille. Il ne disait pas c'était sa...
Quand je vous disais que nos héros anonymes sont humbles, exemple.
Voilà. Et c'est pour ça que c'est moi qui appelle aussi et que c'est pas lui qui appelle qui vous parle.
Ah oui.
Parce qu'il y a une certaine timidité là, de son côté. Donc il m'en a parlé. Ça fait que j'ai acheté des cadeaux avec lui. J'ai emballé des cadeaux avec lui. Puis l'autre Noël d'après, j'en avais parlé au travail. Puis du monde qui a dit c'est bien cool ça. Voulez-vous qu'on emballe des cadeaux avec vous? Et de fil en aiguille, là, à un moment donné, les gens voulaient nous donner de l'argent. Il a fallu qu'on prenne une décision de vraiment faire une fondation là, pour pouvoir remettre des reçus d'impôts quand même, parce que là, les gens voulaient commencer à vouloir nous donner des montants substantiels. Et donc, on est devenu officiellement une fondation. Et on a emballé... Tout se passe là, à la maison, chez nous.
Le salon devait être envahi. Là. Ça devait être quelque chose.
Le salon est envahi. La cuisine est envahie. Je suis chanceux, j'ai une grande maison. Mais vraiment, toutes les pièces de la maison y participent. Cette année, j'en avais même dans ma chambre à coucher. toujours l'année où est-ce qu'on a dû emballer 1000 cadeaux à la maison, sur une fin de semaine, là, on s'est rendu compte que c'était trop... On était rendu trop gros, là. Et on avait plus d'argent. Là, on faisait plus juste Montréal. Là, on commençait à couvrir le restant du Québec parce qu'on avait assez d'argent pour couvrir le restant du Québec. Et là, cette année-là, c'est là qu'on a déménagé. Là. Après la dernière année à Mélecadon, on a déménagé au Collège Brébeuf, qui est un de nos... ils nous aident beaucoup. Là. Ils nous fournissent des espaces toute la fin de semaine là, pour qu'on ait nos bénévoles. Et là, il a fallu qu'on agrandisse au Canada parce que là, tout le monde continue à nous envoyer plus d'argent et plus d'argent. Donc, on a passé de Montréal au Québec à tout le Canada. Alors maintenant, on couvre le Canada au complet.
Wow! Combien de cadeaux ont été remis cette année?
Bien, cette année, vous voyez, un petit peu moins qu'attendez. Je vais vous donner le chiffre exact parce qu'il est tellement beau, le chiffre. On a envoyé 5886 cadeaux cette année. Et wow. Ça, c'est à travers 58 organismes là, à travers le Canada. Et ça va de la carte cadeau. On a réussi à trouver une carte cadeau qui s'utilisait partout au Canada pour une compagnie, là, pour une pharmacie, en fait, qui a des succursales partout au Canada. Mais aussi, ça peut être des bas, ça peut être des vêtements, c'est des jeux. On a au-dessus de 500 enfants là qui reçoivent des cadeaux. Et là, ces cadeaux-là sont encore plus personnalisés. On a des prénoms des enfants, des âges et des sexes. Parce que on ne peut pas donner la même chose à un enfant.
Mais là, Antoine, je vous écoute parler. Vous parlez d'enfants.
Oui.
Expliquez-nous, parce que là, on était sur les personnes affectées par le VIH. Donc, est-ce que je comprends que le « affecté » est beaucoup plus large, là?
Bien, tu sais, je vais vous dire, là, les gens qu'on aide ont beaucoup changé à travers le temps parce que la maladie a beaucoup changé. Là, maintenant, on aide des organismes partout au Canada, on leur envoie leurs cadeaux. Leurs clientèles sont des personnes... Le mot qu'on utilise, nous, c'est infecté ou affecté.
Ah, voilà.
C'est comme, je vais vous donner l'exemple du cancer. S'il y a quelqu'un qui a le cancer dans une famille, c'est toute la famille qui a le cancer.
Mm-hmm.
Alors, c'est la même chose avec le VIH-SIDA. C'est sûr que c'est quelque chose qui... C'est une maladie qui se traite mieux aujourd'hui qu'elle ne se traitait. Elle ne se guérit toujours pas. Mais il y a toujours et encore en 2025 des stigmates aussi associés à cette maladie-là. C'est beaucoup plus une maladie de pauvreté aussi que ça ne l'était.
Quel lien on peut faire entre la maladie et la pauvreté?
Bien, c'est plus difficile, c'est moins d'accès à de l'éducation, moins d'accès à des moyens contraceptifs, les condoms, ces choses-là. Mais ça peut être une question d'éducation, de milieu social aussi. Tu sais, c'est de l'information. L'information, elle sort plus, là. On n'en parle plus d'ici là. La pandémie, elle conditionne toujours la maladie. Elle se promène toujours, mais on en entend pas. N'entend pratiquement plus parler. Autour du 1er décembre, là, la Journée mondiale de la lutte contre le sida, on en entend parler, mais sinon, vu qu'il y a des médicaments relativement efficaces, encore une fois, qui ne guérissent pas, mais qui...
On a l'impression que ça a diminué, alors que dans les cas, dans la lecture que je faisais, c'est pas le cas du tout.
Non, il y a encore beaucoup... Les jeunes se sentent un petit peu invincibles. Alors, toute l'éducation...
Ah, mais ça, je pense que c'est de tout temps, malheureusement, toute génération.
Oui. Mais les taux, je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais comme pour le Québec, les taux, on est dans des centaines de nouveaux cas par année. Parce que l'utilisation du condom n'est plus prônée, parce que les gens disent, il y a un médicament, il y a ci, il y a ça, etc. Donc, la maladie continue à se propager malgré tout.
Mais quand vous dites le port du condom n'est plus prôné, j'ai quand même l'impression que, tu sais, largement au niveau des ITSS, on parle quand même toujours de l'importance de se protéger, non?
Ben oui. Écoutez, moi, je ne travaille pas et personne dans notre organisme là, ne travaille en éducation ou dans le milieu du sida. On est tous... Moi, je gère un magasin. J'ai des personnes à la retraite. C'est comme notre à côté. Donc, mais oui, on en parle encore, mais on en parle le moins. Si on regarde de le condom a disparu de la pornographie. Pendant des années, des années, des années, le condom faisait partie de la pornographie. Le condom ne fait plus partie de la pornographie. Il y a beaucoup d'éducation sexuelle, malheureusement, qui passe par la pornographie.
Malheureusement.
Oui, ça, on est d'accord. Donc, on ne voit pas, cet exemple-là n'est pas donné. Puis là, si les gens ont plus peur de mourir, mais ils se disent encore qu'avoir une gonorrhée, c'est pas si grave que ça. Ils comprennent pas les implications de ce que c'est d'avoir une gonorrhée, d'avoir une syphilis, d'avoir un chlamydia, d'avoir toutes ces choses-là. Voilà où on en est.
Oui. Et c'est possible aussi, depuis que j'avais l'impression, en tout cas, c'est une impression, là, je vous la partage, que le mot sida versus VIH, ça n'avait pas le même impact à l'oreille, ou peut-être parce que c'est associé justement à l'époque où on a découvert la maladie, le côté incurable et autres. J'ai comme l'impression que le terme VIH atténue un peu la crainte. Est-ce que ça se peut?
C'est parce que le VIH et le sida sont c'est deux choses. Le sida, c'est une fois que le VIH s'est déclaré. Là, on a vraiment le sida, c'est quand la maladie du VIH, c'est le virus là comme tel. Si je me souviens bien de moi.
De toute façon, on ne vous reçoit pas au niveau santé publique. Là, c'est vraiment pour votre travail de la Fondation Les Petits Lutins. Puis ce que je comprends, c'est que vous avez suivi là, un élan du cœur. C'était de poursuivre le travail que votre conjoint avait lancé. Et parce que j'imagine que on avait un invité tout à l'heure, un bénévole, Gilbert Lepage, qui dit que le bénévole, ça nous rapporte à nous-mêmes. Donc, j'imagine que si Sylvain continuait, c'est parce qu'il en retirait quelque chose aussi.
Oui. Puis il continue et il est le meilleur à parler de la Fondation en un par un. C'est le grand public comme ça avec lequel il y a un peu plus de difficultés. Mais oui, puis nous, nos bénévoles qui restent, parce qu'il faut savoir qu'on a, ça fait 25 ans pratiquement là, qu'on fait affaire avec des bénévoles. Et moi, j'ai des bénévoles, moi, que ça fait 15 ans qu'ils viennent emballer des cadeaux chaque année avec nous autres. Puis qu'ils participent. Puis que pour eux autres, Noël, ça commence avec. Puis ils ne viennent pas aider Antoine et Sylvain ou un des membres de notre CA. Ils viennent parce qu'ils trouvent que c'est important. T'sais. Fait que c'est ça, on trouve que c'est une réussite aussi quand les gens switchent de on s'en va les aider c'est important ce qu'ils font parce qu'un cadeau de Noël, c'est important. C'est ça, on s'est rendu compte avec le temps parce qu'on se repose tout le temps la même question, hein, année après année. Est-ce que c'est si important que ça, recevoir un petit cadeau? On avoue aussi que sont quand même modestes, là, les cadeaux qu'on est en mesure
Mais c'est la présence, j'imagine, l'attention que quelqu'un a pensé à nous.
Oui, parce qu'il faut savoir, chaque cadeau sont emballés individuellement et chaque cadeau est signé par l'emballeur avec une petite carte. Alors, les gens, quand ils nous écrivent, les fois qu'on reçoit des courriels, des fois, c'est « J'ai reçu une super bougie du lutin Martin. Pouvez-vous lui dire merci de ma part? » Ben, là, je brise un peu de magie en disant « J'ai 250 bénévoles qui... » qui emballe, mais il y a vraiment un Martin qui a emballé ce cadeau-là à cette personne. Et on rappelle aussi aux bénévoles, pendant qu'ils emballent, pensez à la personne au bout du fil qui va recevoir le cadeau. Là, on est tout excités, on chante des chansons de Noël en emballant, mais il faut prendre un moment pour penser à l'impact que ça a. Et selon ce que les organismes nous disent et les retours qu'on a quelquefois de récipiendaires, oui, ça a un impact. On a eu la chance à un moment donné d'aller à Vancouver, Sylvain et moi. Il y a un immense organisme là-bas qui s'appelle Dr. Peter, qui est un des plus anciens organismes qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Et à un moment donné, on va dans la cour intérieure, ils nous font visiter, on rentre dans la cour intérieure où est-ce que les gens vont pour fumer, et le monsieur dit « Ah, mais ça, c'est Antoine et Sylvain de la Fondation des Petits Lutins. » Bien, les trois personnes nous ont dit les quatre années précédentes quels cadeaux ils avaient reçus de nous.
Mmh. Ça a marqué leur cœur, leur mémoire.
Voilà. Ça fait que c'est on ne sait pas, puis il y a des gens qui sont pas chrétiens, qui sont pas catholiques, ou pour qui Noël, puis tout ça n'est pas nécessairement important. Ils reçoivent un cadeau de nous. On a reçu des courriels de remerciement de ces personnes-là aussi, parce qu'ils savent ce que c'est recevoir un cadeau quand même si c'est pas... On ne fait pas une œuvre chrétienne, on fait une œuvre du temps des fêtes.
Oui, je comprends que c'est campé dans le temps. Puis est-ce qu'il oui. y a déjà eu... vous êtes vraiment dit, nous, c'est le créneau qu'on occupe, puis on reste à ce niveau-là.
Bien, c'est parce que...
Vous passez par des organismes aussi, c'est ça. Là.
Oui, puis c'est comme on a tous nos vies parallèles. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de septembre, on a des activités là, de levée de fonds pendant l'année, des tournois de quilles, une vente de garage. Mais à partir de septembre, c'est notre grosse saison. Là, on s'installe au marché Jean Talon.
Hey, attendez, Antoine, là, moi, je veux qu'on insiste là-dessus parce que c'est toute une histoire. On va prendre une petite pause puis on reparle là-dessus après.
Parfait.
C'est bon?
Oui.
De retour au Héros Anonymes, Chantal Doré au micro, et je suis en discussion avec Antoine Gélina, membre fondateur de la Fondation Les Petits Lutins, qui offre soutien, réconfort et surtout cadeau de Noël aux personnes affectées par le VIH. Antoine, avant la pause, on se parlait là, d'activités de financement, tournoi de quilles, vente de garage. Et là, vous vous apprêtiez à me raconter un petit peu l'activité phare de financement que vous faites pour la Fondation Les Petits Lutins. Qu'est-ce que c'est?
Oui. Alors, à partir de la mi-septembre, on s'installe au marché Jean Talon. Donc, les gens qui fréquentent le marché Jean Talon nous connaissent. On est en face du marché des saveurs du Québec. Au moins une journée par week-end, et on prépare dans un immense froc des arachides et des pacanes sucrées et épicées, notre recette secrète, et on vend ça. Donc là, on en est à notre 17e ou 18e année de pinotes. Là, je suis un peu perdu là, dans mon nombre d'années, parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pinotes qu'on brasse.
Beaucoup de
Mais on est devenu... On est comme devenus des vraies personnes du marché Jean Talon. Mmh. Les gens
légendes
arrivent, puis là, ils disent « Ah, enfin, vous êtes de retour! » Puis là, quand c'est la dernière fin de semaine, les gens viennent faire des provisions, puis tout ça. Mais là, on est chanceux, on peut en laisser dans une boutique au marché Jean Talon. Donc, on réussit à étirer nos ventes là, jusqu'à Noël. Mais c'est vraiment là, notre activité phare qui nous permet de ramasser là, le plus, vraiment le plus d'argent pour acheter les cadeaux. Il faut dire, on parle pour nous une campagne, là, c'est 60 000 $ par année, là, 70 000 $ par année. C'est ce
à récolter pour ce que ça coûte.
Voilà. Pour ce que ça coûte. On est chanceux, on a des donateurs en argent aussi, mais le plus gros, c'est des pinottes.
Et qui fait le magasinage des cadeaux?
C'est, en gros, j'ai trois personnes qui font le magasinage de cadeaux. On a Manon. Manon, elle est en charge de tout ce qui est cadeaux d'enfants. Donc, elle a la liste des 500 enfants avec les noms, les âges.
Donc, c'est souvent les enfants de personnes... Infectés
ou affectés.
Okay.
Nous, on ne sait pas. On est dans la noirceur par rapport à ça.
Les noms, ils viennent de où?
Ils viennent des organismes. Donc, les organismes, on leur écrit, on leur dit combien vous avez d'hommes, combien vous avez de femmes, combien vous avez d'enfants. Et là, quand ils nous disent combien d'enfants qu'ils ont, bon, on leur demande d'avoir au moins des âges, parce que des âges et des sexes minimum. parce que petite fille de 5 ans et garçon de 13 ans, là, c'est pas...
On sait pas le même cadeau de Noël.
On n'achète pas la même chose. Oui. Alors là, tous ces cadeaux-là sont emballés séparément avec le nom de l'enfant en plus sur le cadeau quand on réussit à avoir le nom de l'enfant. Donc ça, c'est Manon. Sylvain, lui, s'occupe de la plupart de l'achat des autres cadeaux et les autres, on l'aide là, quand il dit là, au Costco, machin, là, il faut absolument aller chercher les 8 caisses de ça qui restent. Ben là, on a des bénévoles qui partent puis qui vont acheter ce qui est dans les différents magasins. Parce que c'est tout du neuf, c'est tout. Il y a quelques trucs qu'on réussit à aller acheter dans le gros. Mais sinon, c'est du magasinage comme vous et moi faisons à chaque année pour le temps des fêtes.
Fait que c'est quand je vois passer au Costco là, des gens qui achètent, des fois je me disais c'est peut-être un dépanneur, mais là je comprends que c'est peut-être une fondation qui fait du bien.
Ben c'est fort possible parce que les gens nous demandent des fois est-ce que c'est pour une fondation. Donc je pense qu'ils commencent à être habitués à avoir des gens comme nous qui essayent d'aider un petit peu.
Parce qu'il y a des entreprises qui vous donnent carrément les produits qui sont des cadeaux peut-être plus appréciés.
Ça dépend des années. Ça dépend de nos rencontres dans l'année. Ce qui est fantastique avec le marché Jean Talon, c'est qu'on rencontre toutes sortes de gens au marché Jean Talon. Donc, on a eu déjà des gens de certaines entreprises qui ont réussi à venir... emballer ou faire une levée de fonds à travers leur propre entreprise, ou c'était des entreprises qui vendaient des serviettes qui ont réussi à avoir un meilleur prix. Donc oui, ça arrive. Des fois, on réussit, mais encore une fois, notre problème, c'est notre grosseur et le nombre. On n'est pas beaucoup et on est tous occupés à d'autres choses. Donc, pendant l'année, on n'a pas toujours le temps de faire les recherches pour ces choses-là. Des années, on est chanceux, on a plus de temps, puis on réussit à trouver des donateurs ou des organismes là, qui vont nous donner des cadeaux.
Est-ce qu'on entend un petit lutin félin derrière vous?
Non, entend, je suis dans la salle, je suis au travail, je suis dans la salle des employés. Ah, c'est un micro-ondes qu'on entend.
Il va falloir que je revoie mon répertoire de bruit, là.
Mais vous aviez été chez nous, vous auriez entendu un chat.
Oui.
Qui est bien content d'avoir retrouvé sa maison après la période des lutins.
Oui, est-ce que lui, il devait se sentir envahi au milieu de... Puis il vous a jamais défait des emballages?
Non. Ben, c'est parce qu'une fois qu'ils sont emballés, les cadeaux, ils ne reviennent pas à la maison, Dieu merci. Ils partent, ils sont envoyés. Parce que ça, on a des compagnies de transport là, qui nous offrent gratuitement le transport. Parce que je vous dis, des fois, les transports coûtaient plus cher que la valeur des cadeaux.
Ben oui, je peux imaginer, surtout à la grandeur du Canada. C'est un grand pays.
Envoyer une boîte de 6 cadeaux, des fois on envoyait l'organisme n'existe plus, là, mais dans les territoires du Nord-Ouest, on a déjà payé comme 300$ l'envoi de la boîte qui contenait comme pour 60$ de cadeaux. Alors quand on a eu des gens là, qui ont commencé à vouloir nous offrir le transport, là, on a été très contents. Alors là, presque tous nos transports sont payés maintenant par par des compagnies de transport qui nous offrent leurs services.
Et les bénévoles, donc il y en a qui emballent, est-ce que ça leur arrive de voir les personnes à qui c'est destiné?
Ben, on a rarement. Fut un temps où est-ce qu'on allait livrer le 24 décembre pour des organismes montréalais. Mais vu le changement de type d'organisme, là, ils ont tous leur party de Noël bien avant le 24 décembre. Donc, on n'a plus de bénévoles qui vont livrer aux organismes. Par contre, ce qu'on a instauré, c'est ce qu'on appelle les hit and run.
Racontez.
On a sélectionné certains types de cadeaux qui vont être emballés comme les autres. Et si mon ami Roger veut avoir 10 hit and run, on lui fournit 10 hit and run. Et son travail, c'est entre l'emballage et Noël, il faut tout simplement qu'il aille donner les cadeaux aux personnes sur la rue, donc aux itinérants, aux personnes, aux sans-abri, etc., qui voient, pour comprendre un petit peu c'est quoi l'effet, c'est sûr, c'est pas comme dans les organismes qui vont les recevoir dans un party, mais ça fait son effet quand même, et ça aide un petit peu de voir c'est quoi l'effet d'un cadeau de Noël. Alors, il y a toutes sortes de réactions là chez ceux qui reçoivent les cadeaux. Ça dépend souvent de l'état de la personne qui le reçoit, mais je peux vous dire que souvent, c'est très, très beau. Et c'est un hit and run parce que nous, ce qu'on suggère aux gens, c'est vraiment, t'es dans ton auto, t'arrives au coin, il y a quelqu'un assis qui quête, tu sors de ton auto, tu te fous si ça klaxonne, tu donnes le cadeau, tu dis joyeux Noël et tu repars.
Ah oui, d'accord.
C'est de là que vient l'expression hit and run.
Oui, parce que je me demandais qu'est-ce que vous faisiez concrètement.
Ben c'est ça, c'est sûr, si on marche, les gens, là maintenant, ceux qui font les ten runs ont tous leur façon. Il y en a, je sais que j'ai des gens qui attendent le 25 décembre pour aller faire leur ten run. J'en ai d'autres, ils en mettent un dans leur sac à tous les jours quand ils vont travailler. Puis là, ils ont plus de temps pour jaser des fois. Il y en a que c'est pour la personne qui est tout le temps en face de la SAQ. Là, on a tous une personne qui quête là en face de la SAQ, à peu près toutes les SAQ à Montréal.
Oui.
Donc, il va attendre pour avoir son cadeau pour cette personne-là. Donc, c'est une façon là, de faire participer puis de rendre ça plus concret un petit peu pour les gens, pour nos bénévoles.
Antoine, est-ce que vous êtes en quête d'autres bénévoles?
On a toujours besoin de bénévoles. On peut aller. La meilleure façon, c'est d'aller sur notre site internet, petitlutin.org, et on s'inscrit à notre infolettre. Et là, on n'est pas très fatigant avec l'infolettre. Mais quand c'est le temps d'annoncer des activités, des choses comme
on a accès, bien.
On a accès, puis là, on peut dire, ben moi, j'aimerais ça être ça. Si vous faites votre tournoi de bowling, si vous avez besoin de quelqu'un pour aider ou à la vente de
excellent,
garage,
le message est passé, Antoine. Wow. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, membre fondateur de la Fondation Les Petits Lutins.
Merci de m'avoir donné la chance d'en parler.
Merci beaucoup. Et moi, je remercie notre équipe, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté. Et d'ailleurs, en parlant de demande de bénévolat, de dons, vous savez que Canalem est un organisme communautaire. Alors, vous pouvez aller sur canalem.vuesetvoix.com. D'une part, vous avez tous nos épisodes et vous avez la possibilité de faire un don en ligne via la plateforme Canada Don ou de devenir bénévole, de participer à notre panel. Alors, vous allez simplement sur notre page d'accueil et vous avez tous les renseignements pour nous aider à continuer notre mission. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.